Bien, bonsoir. Bienvenue. Merci d'être là pour cette rencontre avec Georges Apergis, qui est l'invité de la Bibliothèque publique d'information pour son cycle « La création à l'œuvre ». C'est un très grand plaisir pour nous d'accueillir Georges Apergis, un compositeur inclassable qui a toujours affirmé sa liberté d'artiste et sa volonté de n'appartenir à aucune école. Un compositeur particulièrement prolifique puisqu'il a créé depuis la fin des années 60 avec une invention jamais tarie et un goût constant pour l'expérience, une centaine d'œuvres très personnelles dans trois domaines. Le théâtre musical, où interviennent des musiciens et des comédiens, et où la dramaturgie vient de la musique. L'opéra, où le texte littéraire est l'élément fédérateur et déterminant. Et enfin, la musique de concert, dont la vocation n'est pas a priori scénique, même s'il introduit dans certaines de ses pièces des aspects théâtraux et gestuels. Les spectacles de Georges Apergis s'inspirent souvent de faits sociaux traités sur un mode poétique ou satirique. On peut dire que la grande singularité de Georges Apergis est de réconcilier le monde sonore et le monde visuel. Alors ce soir, Georges Apergis est venu en voisin de l'IRCAM, où il a ces trois derniers mois travaillé à la création d'un nouveau spectacle de théâtre musical, Luna Park, inspiré d'une réalité sociale envahissante, la vidéo de surveillance, la vidéosurveillance. Un spectacle commandé par l'IRCAM pour le festival Agora, dont la première a eu lieu mercredi dernier et dont vous pourrez voir ce soir la dernière représentation à 20h30, dans la mesure, bien sûr, des places encore disponibles pour ceux qui n'auraient pas réservé. C'est la raison pour laquelle notre séance s'achèvera à 20h15. D'ici là, nous allons tenter de comprendre le cheminement créatif de Georges Apergis, mené le plus souvent en étroite collaboration avec ses interprètes, mais aussi ses sources d'inspiration, sa fabrique des sons et des images, cette imbrication entre musique et littérature, musique et scène qu'il y a dans ses œuvres. Ceci avec le concours de Nicolas Donnin, musicologue, responsable de recherche à l'IRCAM. Nicolas Donnin, qui est l'auteur de deux films sur le travail de Georges Apergis, Dans le mur de Georges Apergis, réalisé en 2008, et Luna Park, tout juste achevé sur l'élaboration de son dernier spectacle. Je lui donne la parole en vous souhaitant une très bonne soirée.
Alors pour entrer dans le vif du sujet, puisque nous sommes invités par une bibliothèque, j'ai envie de commencer par te faire parler de tes lectures. C'est une question qui n'aurait pas forcément de sens pour tous les compositeurs qu'on pourrait inviter ici, mais il me semble que dans ton cas, parce qu'il y a cette relation privilégiée avec le théâtre, mais pour beaucoup d'autres raisons, c'est une façon d'entrer en musique peut-être, que de parler de quelques auteurs ou livres qui t'ont marqué. Alors, au début de ton parcours artistique, en particulier depuis que tu es arrivé en France au début des années 60, il y a un certain nombre de figures plus ou moins marquantes qui ont pu avoir des répercussions sur ton travail. Je pense à Adamov, notamment dans les années 60. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ces lectures qui peuvent déterminer des choix esthétiques?
Alors, oui, il y a des lectures qui ont des influences directes et des lectures qui ont des influences indirectes. Par exemple, Jules Verne, que j'ai commencé à lire quand j'avais 13 ans, 14 ans, ça a été une influence indirecte, bien qu'après je m'en suis servi pour certains spectacles. Par contre, par exemple, la découverte des textes d'Artaud, quand je suis arrivé à Paris, c'était pour moi quelque chose de fondamental par rapport à la présence du corps dans l'acte musical et dans l'acte théâtral, en fait. Donc, voilà, il y a des lectures qui sont directement responsables, disons, des séquences ou des pièces, et puis d'autres qui sont là et qui infusent, comme ça.
Alors, je crois que c'est Antoine Chin qui avait dit qu'à chaque grand système herméneutique du XXe siècle, il y a un opéra d'Apergis, il y a la psychanalyse, c'est Histoire de loup. d'après Freud. Le communisme, c'est l'écharpe rouge avec Alain Badiou. Le structuralisme, c'est Triste Tropique, d'après Lévi-Strauss. Comment on pourrait continuer la liste?
Non, c'est vrai que je n'ai pas fait exprès. Hein. C'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer Alain Badiou sur cet opéra, sur le communisme, qui était... pour moi, une aventure absolument incroyable, parce que c'était, en gros, je voulais faire une sorte d'opéra chinois avec juste trois percussionnistes, deux pianos et puis les chanteurs. Et donc, vu la longueur du texte, au début, cet opéra faisait durer 5 heures et quelques, juste avec ces instruments-là, ce qui était pour moi une espèce de challenge énorme, quoi, d'arriver à tenir la tension pendant si longtemps. Et puis, peu à peu, on a élagué la pièce, et la pièce s'est retrouvée finalement plus tard à Paris, cet opéra. Ensuite, Claude Lévi-Strauss, c'était pour moi inespéré de le rencontrer, parce que ses livres m'ont beaucoup marqué. Travailler sur Triste Tropique, c'était une chance incroyable pour moi, en fait. De mettre face à face là, en fait le monde européen de l'hétérologue qu'il trimballe avec lui, puisqu'il est dit même dans le livre, et en pleine Amazonie il pensait à une étude de Chopin, il l'écoutait dans sa tête. Donc voilà, c'est le monde, notre monde en fait, en présence du monde des différentes découverte qu'il a fait là, des différents peuples, avec leur façon de faire de la musique qui est une musique complètement différente, qui est presque proche du sifflement, du bruit, de l'imitation des oiseaux. Enfin bon. Et donc, voilà, comment mettre ces deux musiques-là face à face, c'était aussi une espèce de... Ce que j'aime bien, c'est quand il y a des... Quand au début, on se dit, c'est insoluble. J'y arriverai pas, voilà. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me fait écrire.
Alors, il y a également un nom, enfin un double nom qui compte beaucoup, c'est Deleuze et Guattari. Deleuze et Guattari, dans les années 70, il y a une constellation littéraire, finalement, dans les écrits. Il y a Kafka pour une littérature mineure, il y a Gerasim Luka, des auteurs qui te sont assez proches. Il y a aussi un concept qui, je crois, a un certain écho dans la façon que dans ta façon de décrire ta musique, c'est la génération par le milieu. Est-ce que tu voudrais parler de ça?
Mais ça m'a un petit peu conforté dans ma façon de faire, en fait, parce que j'ai pas tendance à commencer une pièce du début à la fin. Enfin, il n'y a pas de début. Il y a des choses qui viennent, que j'écris, et puis après, ils trouvent leur place beaucoup plus tard dans la pièce. C'est-à-dire que la forme générale de la pièce s'est fait plus tard. Donc, quand j'ai lu la génération par les milieux, comme il dit...
Donc c'est les volcans, c'est tout un tas de figures naturelles qui décrivent,
oui,
comme générant par le milieu la forme.
Moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Et par exemple, là, dans la pièce Luna Park, qu'on joue ce soir... La partition n'est pas écrite du début à la fin. Il n'y a pas une suite. Je parle du début du travail. Hein. C'est-à-dire que je donne des pages comme celle-là, par exemple. Là, c'est pour la flûte. Donc, je donne des pages aux musiciens. Ils savent qu'ils doivent jouer ces morceaux-là, mais ils ne savent pas dans quel ordre. Ils ne savent pas comment ils vont se succéder ni se superposer, parfois. Et donc, j'essaye de retarder, disons, la syntaxe du tout pour pouvoir faire intervenir la vidéo, la lumière, les jeux de corps sur la scène, en même temps que la musique, et ça me permet de ne pas avoir à faire une mise en scène de ma musique comme si c'était un opéra écrit et qu'on monte ensuite. C'est une chose qui se fait de tous les côtés. Et c'est très difficile et c'est très excitant en même temps. Donc c'est la seule façon que j'ai trouvée de pouvoir avoir tous les éléments à égalité, sans qu'il y ait un qui soit déjà accompli d'un bout à l'autre, quoi.
Donc la syntaxe à retardement.
Oui. Alors évidemment, les musiciens ou les acteurs, selon le spectacle, sont assez inquiets parce qu'ils n'ont pas les fils conducteurs qu'on a quand c'est écrit du début à la fin. Et ils veulent savoir. Hein, et puis moi, j'essaie de retarder le plus possible le moment de savoir. Donc ça crée une tension amicale, toujours, mais quand même une tension qui n'est pas, qui est profitable au spectacle, je crois, en fait.
Alors là, on évoquait donc quelques auteurs, quelques livres. On pourrait aussi parler de ceux du 19e siècle, parce qu'on a l'impression que tout ça est très moderne, mais très contemporain. Mais Flaubert, Goethe sont tout aussi importants. Et puis, bon, il y a aussi des auteurs vivants avec lesquels donc tu as directement collaboré. On a évoqué tout à l'heure le nom de Badiou. Et il y a un peu deux catégories dans ces auteurs-là. Il y a ceux qui ont été vraiment des librettistes, on peut dire, dans un sens classique, pour toi. Et puis, il y a ceux qui sont mis dans la situation de, je sais pas comment on pourrait dire ça, extracteurs de minerais verbales, qui doivent fournir du matériau un peu analogue à ce que toi, tu fournis avec tes partitions. Et ça détermine un peu deux formes de processus de création de spectacle.
Oui, c'est-à-dire que quand j'écrivais des opéras, c'était toujours... Il y avait toujours... Pas toujours, d'ailleurs. Parfois, je l'ai fait moi-même, mais souvent, il y avait quelqu'un qui faisait le livret. C'était une façon très classique de travailler. Donc, il y avait le livret qui était fait, puis après, moi, je le mettais en musique. Et puis, il y avait un metteur en scène qui venait faire la mise en scène du spectacle. Et depuis que je travaille autrement, avec des spectacles qu'on peut, en tout cas, qui ne sont pas des opéras, disons, c'est des spectacles, mais pas vraiment opéras, je travaille avec, par exemple, avec Philippe Mignana ou avec François Regnault. Ce sont des gens qui, finalement, amènent des textes. C'est joli. Qui amènent des textes. Et en fait, ces textes, c'est un réservoir, en fait. C'est un réservoir textuel sur lequel moi, je puise. Alors, parfois, je prends très peu de textes, ou parfois plus, mais j'ai la liberté de les agencer comme je veux, en fait. Et C'est une espèce de loi qu'on s'est installée entre nous. Quoi.
Et puis, il y a des textes qui sont les tiens. Il y a notamment un recueil, voilà, Zig Bang, aux éditions POL, qui rassemble comme ça quelques textes qui sont extraits de spectacles que tu as fait ou que tu as écrit en marge de ta création musicale. Sont des textes qui portent des titres qui rappelleront beaucoup d'autres œuvres d'Apergis à ceux qui les connaissent. Conversation, dialogue amoureux, fiction, conversation, tirade, improvisation, souffle, confession, compression, énumération. Alors en voici une. Je me suis dit que c'était une bonne entrée en matière dans les manières de composer, puisqu'on retrouve finalement des manières de travailler avec le verbal qui ne sont pas sans point commun avec ce que tu fais sur le matériau musical. Donc par exemple, ça, bah déjà, comment ça se lit?
Comment tu dis?
Comment ça se lit? De droite à gauche, de bas en haut?
Comme on veut, oui. Comme on veut, en fait, c'est l'énumération qui finit toujours par quai. Et il y a un rythme à l'intérieur, il faut le trouver. Il faut travailler dessus, et puis ça fait une espèce de musique, comme un chapelet qu'on fait défiler comme ça.
Dans le spectacle qui s'appelait Énumération, il y avait des énumérations dans l'ordre alphabétique, par exemple.
Oui.
Là, pas du tout.
Non, là, c'est la terminaison qui est importante, en fait.
Alors, on peut regarder peut-être un autre exemple de texte qui présente une autre configuration. Alors, celui-là, il est extrait d'un spectacle qui s'appelle Conversation, un spectacle des années 80. Alors c'était un percussionniste qui le prononçait.
C'était Jean-Pierre Drouet qui le disait en dansant. Il avait trouvé des gestes pour chaque mot et ça faisait une espèce de d'homme orchestre qui traversait le plateau.
Ça se lit pas en colonne là quand même.
Voilà. Donc là aussi il y a des rythmes à l'intérieur. Il faut le trouver pareil. Il faut travailler quoi.
Et puis, au moment où il disait la dernière phrase, un geste clair, là, il y avait un gros bruit.
Un geste clair. À ce moment-là, dans le spectacle, on avait fabriqué ce que j'appelais un pendule. En fait, c'était 6 assiettes qui étaient suspendues. Et il y avait un système de mise à feu qui faisait que les assiettes tombaient l'une après l'autre. Et ça sonnait les 5 heures ou 6 heures, je ne me souviens plus. C'était juste après le clair. Quoi.
C'est ça. Ouais.
Là, c'est donc, elle est tombée sur d'autres assiettes, elle s'est cassée et ça faisait un bruit infernal.
Donc, quand on lit ça, évidemment, on n'a pas tous ces éléments-là. Mais il y a des gens qui les ont dit à Avignon, ces textes.
Oui, après, ces textes ont circulé beaucoup, en fait. Oui, oui.
Donc, ils sont faits pour être lus, adaptés, interprétés.
Oui, c'est une matière, mais qui a quand même sa logique intérieure. Il faut vraiment le travailler, les textes, pour pouvoir trouver quelque chose d'intéressant rythmiquement à l'intérieur de ça.
Alors, si j'ai choisi celui-ci, c'est aussi parce qu'il rappelle beaucoup la structure de certaines pièces musicales, notamment les récitations, une de tes œuvres les plus connues. Et on peut peut-être écouter, à la lumière de cette demi-pyramide, une récitation qui, elle aussi, est construite en pyramide.
Quoi ? Ah ! Parfois. Oh ! Ah ! Sais-je parfois ? Eh ! Oh ! Ah ! Sais-je parfois ? Ah ! Oh ! Ah ! Résais-je parfois ? Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Quoi résais-je parfois ? Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Pourquoi résais-je parfois ?
Alors, s'il y avait des figures de style à Perguicienne, évidemment, il y aurait l'accumulation, il y aurait la répétition cyclique. Bon, ce qui est quand même... que tu veux en dire un mot, peut-être, de cette pièce ?
Non, c'est très simple, en fait. C'est des ajouts, c'est des accumulations. Et alors, il y en a une qui est rapide, qui vient peu à peu prendre la place de l'autre, en fait. Comme si elle voulait prendre la place, comme du lierre qui est autour d'un arbre, en fait. C'était ça. C'est des récitations, c'est des idées vraiment. C'est une idée simple par pièce. Je voulais. C'était une époque. C'était 78, hein, il y a longtemps. Je voulais trouver une simplicité, vu la musique contemporaine de l'époque qui était tellement complexe. Je voulais aller à contre-courant et trouver vraiment des choses les plus simples possibles pour écrire cette pièce.
Alors, de cette époque-là date ta fixation sur les phonèmes,
oui.
Où on travaille pas tellement sur l'articulation entre, par exemple, le mot et la phrase, mais plutôt on change de focale, c'est le phonème jusqu'au mot, éventuellement.
Oui.
Comment c'est venu, en fait, cette chose-là ?
C'est venu parce que j'écrivais justement la pièce dont tu parlais tout à l'heure, un opéra sur Histoire des loups, ça s'appelait, sur l'homme au loup de Freud. C'était une des analyses de Freud. Et pour cet opéra, il y avait donc le patient qui était analysé, qui était russe, sa famille aussi, donc il y avait sa petite sœur, le père, la grand-mère, enfin oui, toute la famille. Et puis il y avait 4 psychanalystes viennois qui essayaient de comprendre ce qu'il racontait, trouver des solutions, des conclusions. Bon, c'était l'école psychanalytique. Bon. J'avais ajouté ces psychanalystes pour mettre un peu d'humour dans l'opéra. Et du coup, il y avait des langages différents. C'est-à-dire que lui, donc, il parlait français, mais il était russe. Donc la famille, ses souvenirs familiaux, je ne pouvais pas les imaginer en français. Et donc j'ai fabriqué du faux russe avec des phonèmes ou des mots que j'ai trouvés. Et pareil pour les psychanalystes viennois qui avaient du faux autrichien. Donc c'était ma première façon de fabriquer de la musique, disons, avec des syllabes ou des morceaux de mots. Et puis bon, on a joué l'opéra. Et pendant qu'on faisait la tournée de l'opéra, je commençais à penser à aux récitations, en fait, c'est-à-dire une mélodie qui serait qu'une mélodie de syllabes plutôt qu'une mélodie chantée seulement. Et comment faire une espèce de chapelet de mots qui reviennent et qui, chaque fois qu'ils reviennent, ils prennent un sens différent, en fait, selon la place qu'ils ont dans la musique. Et du coup, ça m'a ouvert tout un univers qui m'intéressait beaucoup. Et c'était aussi venu par des influences d'autres musiques, c'est-à-dire, par exemple, il y a des polyphonies éthiopiennes qui sont très syllabiques, comme ça, et qui travaillent beaucoup sur les syllabes. Il y a aussi des chants que j'ai écoutés plus de l'Asie, qui m'ont beaucoup influencé, en fait, où je me suis dit c'est une façon d'exprimer des choses avant que ça passe par le cerveau. C'est-à-dire la compréhension vient après, mais on sent des choses directement comme quand on est enfant. C'est ça que je visais, en fait.
Alors c'est intéressant d'essayer de comparer avec ce que tu fais quand tu écris de la musique non vocale, non verbale. Et donc je propose d'écouter juste le début d'une pièce récente qui s'appelle Print Music pour piano, et puis de faire la comparaison en quelque sorte. Un tout petit échantillon, mais qui permet quand même de se dire, ben voilà, est-ce que tu n'essayes pas de faire avec des musèmes ce que tu fais avec des phonèmes ailleurs?
C'était mon idée, c'était de faire des accords. Quand tout le monde connaît tous ces accords-là, tout le monde les connaît. C'est pas du tout. Je n'ai pas essayé d'inventer des accords nouveaux, disons. Mais les mettre dans des situations nouvelles, où on ne les attend pas d'habitude, en fait. C'est la syntaxe qui change. Et l'idée, c'était de les mettre côte à côte, d'une façon à ce qu'ils soient vidés de leur émotion. Ça veut dire que l'émotion qui devrait, par exemple, si vous écoutez ces accords dans Debussy, c'est pour créer une certaine émotion. Et moi, je les prends et je enlève cette émotion parce qu'ils sont distribués d'une façon différente. Et je pensais beaucoup au papier peint dans les hôtels, par exemple, où finalement on voit 40 fois la même grappe, ce qui fait que si cette grappe était peinte dans un tableau, il y aurait une émotion de la grappe. Quand on la voit dans la chambre d'hôtel, elle est vidée parce qu'il y a la répétition et puis la façon dont elle est peinte qui est complètement à plat, quoi. Donc c'était ça l'idée, c'était de faire une pièce de piano où tout serait là pour créer de l'émotion et puis cette émotion serait vidée par le rythme et par la juxtaposition des accords-là.
Alors si on parle un peu technique musicale, est-ce que donc ça passe par les mêmes types de procédures que ce qu'on montrait tout à l'heure? Alors bon, récitation, c'est un petit peu, c'est des exercices de style presque. Là, c'est pas, là, ça s'en sont pas.
Non, mais c'est un peu le même processus, sauf que là c'est comment en fait ces accords ne vont pas là où ils devraient aller harmoniquement, comme on a appris l'harmonie et comme on l'a attendu au 19e siècle, disons. Au début du 20e. Là, ils vont ailleurs, ils sont coupés, ils n'ont pas d'avenir, quoi. Ils racontent rien, ils n'ont rien à dire.
Et pour pouvoir les empêcher de dire quelque chose, il faut une méthode quand même. Il faut un moyen de les déstructurer et puis de les réassocier.
Absolument. Oui.
Alors, dans cette méthode.
Ah, c'est pas une méthode. J'ai pas de méthode en fait. C'est des petits schémas, des petites matrices, des petites choses qui font. Mais en fait, une méthode s'use très vite. Donc il y a plusieurs méthodes, disons.
Non, je ne m'attendais pas à avoir une équation. Oui, je te rassure. Donc, on parlait tout à l'heure de répétition. Là, ce que tu pointes, c'est plutôt quelque chose comme une circularité. Parfois, tu parles de manège, de toupie. Il y a une toupie merveilleuse dans un de tes spectacles aussi, à Vie de Tempête. Donc, des figures circulaires comme ça.
Oui, moi, j'aime beaucoup ça. C'est comme manège, ça veut dire qu'on reconnaît. On reconnaît tout, sauf que dans mes manèges à moi, les places changent. Et donc, disons que le cheval n'est pas après l'autobus chaque fois. Donc, à chaque fois, ça change et ça joue avec la mémoire, avec la mémoire du spectateur. En fait, c'est ça que j'essaye de faire, c'est que le spectateur reconnaisse des choses et qu'il reconnaisse que leur place a changé et qu'il commence à jouer avec la pièce.
Alors, ça laisse sentir la question de la dramaturgie, aussi bien à l'échelle d'une œuvre instrumentale que pour un spectacle. Parce que ce dont on parle là, finalement, c'est très local, d'une certaine manière. Et donc, du coup, comment est-ce que tu abordes des questions de tension à plus grande échelle quand tu travailles avec ce type de matériaux, ce type de technique?
Là, par exemple, cette pièce pour piano, il y a presque pas de dramaturgie, elle est complètement égale du début à la fin, c'était ma volonté de faire ça. Mais la dramaturgie, d'habitude, le problème, c'est qu'on a énormément de clichés dans la tête. Parce qu'on a écouté, je ne sais pas combien de fois, Mozart, Beethoven, Haydn, etc., Brahms. Et on a aussi ses propres clichés, c'est-à-dire plus on vieillit, et plus on a des choses qu'on a écrites qui sont là, qui vous habitent. Et donc comment faire la page blanche, comment enlever les clichés qui sont sur la partition qu'on ait commencé à l'écrire. C'est un des problèmes. Pour la dramaturgie, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver d'autres façons d'organiser les tensions et les détentes. S'il y a tension et détente, parfois il n'y en a pas. Donc ça, c'est plutôt une. Je peux pas dire que là j'ai une méthode ou un système. Là, je vais vraiment. Ça passe par mon corps, quoi. C'est une espèce d'instinct qui fait que j'arrive à trouver une extrémis là où je crois que plus rien n'est possible. Tout d'un coup, je vois une issue qui ressemble pas à des choses que j'ai attendues. Quoi. Enfin, je crois que
j'espère.
Que j'espère. C'est pas toujours gagné.
Alors, là, quand on parle de phonèmes, de musèmes, d'organisation comme ça entre des petits éléments, on touche à une question plus large, qui est celle de l'élémentaire ou de l'originaire, c'est-à-dire les plus petits éléments, les plus petits, les premiers. C'est quelque chose qui est devenu un thème à part entière dans certaines de tes œuvres. Mmh. Je pense notamment à Sextior, qui s'appelle aussi L'origine des espèces, qui est une sorte de grand poème oratorio, ou je ne sais pas comment il faut le décrire, sur l'origine des espèces animales, plutôt, jusqu'à l'homme, inclus. Et puis, il y a l'origine des phonèmes, dont le poème serait Machination, une pièce du début des années 2000. Alors, il y a quelque chose d'un peu troublant dans cette recherche de l'originaire, qui a quelque chose de terriblement régressif. Tout à l'heure, tu parlais du monde merveilleux de l'enfance, etc. Est-ce qu'il y a une sorte de primitivisme, alors avec plein de guillemets, qu'il faudrait réadapter dans ces pièces-là, en tout cas, voire peut-être plus généralement, qu'est-ce que tu pourrais faire d'une notion comme celle-là ?
C'est surtout de voir comment si ces animaux parlaient, par exemple, si les trilobites chantaient, qu'est-ce qu'ils chanteraient ? Si les araignées parlaient, comment elles parleraient ? Enfin, tu vois, c'est inventé c'est pas question d'imitation, mais c'est une question d'inventer une chose imaginaire dans le langage. Quoi. Je lisais tout à l'heure une pièce radiophonique de Walter Benjamin où il dit un des personnages, c'est la voix du 19e siècle. C'est quoi la voix du 19e siècle ? Si j'avais à l'écrire, j'aurais beaucoup du mal.
Quel instrumentarium tu utiliserais ?
Ben justement, je sais pas. Mais c'est la voix du 19e siècle où quand on dit la voix du Nord, c'est quoi la voix du Nord ? Et quelle est la différence de la voix du Nord ?
La voix du Nord, on peut s'abonner, tandis que la voix du 19e siècle.
Mais bon, c'est des choses qui me font vraiment marcher, ça, c'est des casse-têtes comme ça.
Alors. Là, j'ai mis à l'écran une voix bien particulière aussi. Donc, un petit extrait comme ça d'un écrit de Wolfli. Si je parlais de primitivisme, c'était parce que j'avais en tête cette espèce de conjonction de ton intérêt pour l'art brut, par exemple, pour des figures anti-modernes ou parallèles ou marginales, schizophrènes dans le cas de Wolfli. Donc cet artiste suisse de la fin du 19e siècle, début du 20e, qui a été interné la plus grande partie de sa vie et qui a composé des sortes de fresques comme ça, plurimédia, si
oui,
on peut dire ça
absolument.
Comme ça.
Oui, parce qu'il y a de la musique écrite, mais il écrivait de la musique sur des portées qui n'avaient pas 5 lignes, mais 7. Alors, pour comprendre, enfin, on n'arrive pas très bien à lire.
Une espèce de langage privé.
Un langage à lui. Il y a des musicologues qui ont essayé de trouver une solution à ça, une grille d'interprétation. Mais surtout, c'est moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est les peintures et les écrits. J'ai vu à Berne des grands livres comme ça qu'il a brochés lui-même. Mais il y en a. De colonnes comme ça, et c'est comme ça, ou c'est des chiffres, ou c'est une espèce de compulsion comme ça. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé d'entrer dans ce monde-là qui a sa logique, mais qui est complètement parallèle, en fait. C'est un autre monde, quoi, complètement. Et c'est assez proche du mien. Alors, c'est un peu inquiétant, parce que je me suis vu. Aussi, mais avec mes répétitions, avec ma façon de... Je compte tout le temps, moi, dans ma tête. Quand je marche, par exemple, je compte. Et tout ça, je l'ai retrouvé là-dedans. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, il faut faire vraiment la pièce pour entrer beaucoup plus, vous voir, beaucoup plus les va-et-vient qu'il y a entre ma musique et ces textes. Et donc, ça finit par une grande cantate qui fait une heure pour chœur et soliste. Et qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, qui m'a pas mal appris des choses sur moi via ses écrits à lui, en fait.
On peut regarder, il y a une deuxième image que j'avais préparée. qui est une image cette fois-ci d'un dessin, enfin d'une page de cahier oui. Complète. Tu pourras peut-être commenter.
Voilà, c'est déjà une polyphonie. Là, on peut voir, il y a des petits personnages toujours qui sont cachés.
Bon, il y a un zoom, il doit y avoir une autre image où on zoome dessus. Non.
Ah si. Oui, voilà, c'est des petits personnages, tout petits. Alors pour moi, c'était évidemment très, très proche d'une polyphonie chorale, quoi, avec des gens qui sortent comme ça, des petits personnages qui ont quelque chose à dire ou à regarder. C'est des témoins de quelque chose.
On peut peut-être écouter juste le début de cette pièce et puis du coup tu pourras nous commenter un peu la relation entre ce qu'on va entendre et puis ce qu'on voit là. Donc là, ça s'appelle Pétrole, avec deux T, un H.
C'est un titre de ce tableau, en fait.
Donc le texte qu'on entend, c'est quoi, en fait, là?
Des textes, c'est de lui, en fait. C'est de lui découpé par moi. Mais parce qu'il faisait aussi des énumérations, comme mes énumérations à moi. Mais ça, c'est dans les autres mouvements. C'est surtout quand il y a les grands chœurs. Là, on les entend vraiment complètement.
Il compte aussi beaucoup, oui.
Oui, oui, oui. Oui, compte, les chœurs comptent beaucoup aussi. Oui, oui.
Et ensuite, l'agencement qu'on entendait, par exemple, est-ce que tu as affecté, est-ce que tu as distingué des sous-ensembles dans le chœur, par exemple, à cet endroit-là?
Là, c'est les solistes qu'on a attendus. Donc là, c'est plutôt des passages de des choses, disons, agressives à des choses beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus calmes. Comme dans ces tableaux, ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment très, très bien peintes, très, très harmonieuses, disons. Et à côté de ça, il y a ou un personnage qui sort ou quelque chose d'autre qui est beaucoup, beaucoup plus agressif. Donc je voulais essayer d'entrer dans cette espèce de dialogue entre l'agressivité et plutôt une certaine beauté, quoi, disons, dans notre système logique.
Donc il y a des pièces comme ça qui sont un peu plus auto-analytiques que d'autres, qui te forcent, enfin que tu fais pour te forcer à éclaircir quelque chose ou à...
Je pense que chaque fois qu'il y a une idée de pièce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'il y a là-dedans quelque chose à apprendre sur moi-même. En fait, c'est une espèce de... C'est comment se trouver dans des situations qu'on ne connaît pas soi-même. Et c'est-à-dire comment est-ce que j'ai réagi. Qu'est-ce que je fais si par exemple, la pièce vous amène à des choses qui n'étaient pas prévues au début. Vous voyez, vous avez un plan, et puis le plan marche jusqu'à un certain point, puis on est perdu complètement parce qu'il y a d'autres idées qui viennent. Et moi, j'ai tendance à les suivre parce que... Elle m'amène à des choses inconnues, justement.
Et là, par exemple, pour la cantate.
Là, il y a eu des moments où je faillis arrêter complètement parce que je perdais le fil complètement. C'est-à-dire que lui, il m'amenait dans des choses qui étaient très difficiles à contrôler. La vie de tempête, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est la pièce elle-même prend le pouvoir sur vous, quoi. Et donc là, il faut trouver la façon d'en profiter. Et en même temps, il faut la contrôler parce que ça.
Être interné à la fin. Quoi.
Oui, c'est ça.
Alors j'avais envie de, en fait, de revenir sur un mot qui a été beaucoup associé à ta musique. Il a donné le titre, par exemple, de ce livre qui est un peu la somme aperguissienne de base, le manuel, qui s'appelle donc Georges Apergis, le corps musical. Donc c'est le corps comme matière première finalement du musicien, et pas la note, et pas le solfège, et pas d'abord la discipline du corps, le corps avant la discipline peut-être, je sais pas. Alors est-ce que toi c'est quelque chose que tu as, comment dire, dont tu as fait consciemment un ressort assez vite?
Oui, mais non, c'est pas consciemment, je crois. Le fait est que je comprends rien au corps. Je ne sais pas comment ça fonctionne encore. Je comprends pas comment c'est possible que tous ces organes soient là. C'est, pour moi, c'est une chose que ça fonctionne, et que si on change un tout petit peu, ça ne fonctionne plus du tout. C'est une chose qui m'est absolument, j'arrive pas à le comprendre. Donc, quand je vois une partition en train de se faire, c'est comme un corps pour moi. Je vois un corps en train de se faire avec ses poumons, avec moi. Mais encore une fois, c'est une abstraction, quoi. Je n'arrive pas. Quand je vois les plans de médecine, les tableaux de avec les nerfs, les vaisseaux sanguins, tout ça, c'est comme si je voyais le ciel et les étoiles, quoi. C'est, pour moi, c'est une chose complètement incompréhensible. J'arrive pas à le comprendre. Donc ça, c'est pour le corps, disons, qui ressemble à la partition. C'est un peu une chose imaginaire. Ensuite, les corps sur la scène, ça oui. Là, je vois le comportement, je vois comment la musique traverse le corps, comment la musique peut devenir visuelle par le corps. Ça, c'est une chose qui m'a toujours intéressé. D'ailleurs, j'aurais jamais travaillé à l'IRCAM avec l'électronique si l'électronique était seulement une chose qui vient des haut-parleurs. De nulle part, quoi. C'est parce que on peut maintenant faire passer la musique par le corps et par les voix et par physiquement que ça m'intéresse de travailler dessus, quoi. Si une électronique abstraite, ça, je n'y crois pas. Ça peut être très beau, mais
tu composeras pas une pièce sur bande.
Pardon?
Tu composeras pas une pièce sur bande magnétique pour nous? On peut écouter peut-être voir un tout petit extrait d'un spectacle qu'on avait choisi avec Georges pour symboliser ce travail sur le corps de façon très aphoristique, en quelque sorte, un extrait de commentaire. Là, c'est un manuel de lecture de Zig Bang.
Ah oui, oui.
C'est comme ça qu'il faut les incarner.
Non, pas tous. Il y en a qui sont.
Donc là, on a le corps sans, finalement, à nu presque. Mais d'une façon générale, dans tes spectacles, tu le cernes par plein de biais, notamment en le mettant en tension avec le corps animal, en le mettant en tension avec la machine. La machine, c'est assez récent au fond.
J'ai toujours été ce que j'appelle des machines. En fait, c'est pas seulement visuel, mais c'est musical aussi. Par exemple, dans Rossini, il y a beaucoup de machines. Dans Rossini, la fin des actes, il y a toujours des quartets ou des sextets où ça devient presque des machines parlantes à une vitesse incroyable. C'est chanté C'est des syllabes. En fait, souvent, c'est des syllabes. Ça revient à des syllabes. Finalement, les mots sont tellement dits rapidement qu'on ne reconnaît pas. On reconnaît que des syllabes. Ça, pour moi, c'est des machines, par exemple.
Ça, c'est un ancêtre caché de Georges Apergis auquel je n'aurais pas pensé. Non, moi,
j'aime beaucoup Rossini. Oui.
Dans Machination, qui est l'œuvre un peu qui voilà, symbolise cette chose-là, là, tu as vraiment voulu appeler... au départ, tu voulais l'appeler face à face entre l'homme et la machine, quelque chose comme ça. Donc c'est l'homme contre la machine, l'homme contre l'animal, l'homme contre la femme aussi.
Oui, il y avait tout ça, mais pas au premier degré, quoi. C'était surtout la machine. Quand j'ai eu l'idée de la pièce parce que je travaillais à l'IRCAM, et l'IRCAM, c'était pour moi le règne de l'ordinateur, de la musique électronique. Donc, c'était faire un face-à-face entre le cerveau humain et puis la question, est-ce que la machine peut penser à la place de l'homme, quoi. Donc, il y avait des petits textes que François Regnault avait écrits qui commençaient par les automates, ancienne Grèce, etc., jusqu'au canard de Vaucanson qui buvait de l'eau et du son, faisait du son aussi, et puis jusqu'à Düring, etc. Donc c'était ça la première idée. D'ailleurs, je l'ai gardé plus ou moins en filigrane, mais... C'est surtout un spectacle sur comment on peut... ça, c'est pas loin de Luna Park, en fait. C'est comment la machine peut voler les voix des quatre femmes et les recracher autrement et leur faire dire autre chose. Donc c'était plutôt ça le travail musical là-dessus.
Donc c'est une forme de dialogue, au fond.
Oui.
Mais à quatre...
les quatre femmes et l'ordinateur.
L'ordinateur, il a une position de maîtrise parfois surprenante, enfin, ou l'opérateur, le machiniste, comme tu l'appelles, c'est-à-dire l'assistant musical qui est sur le côté de la scène.
Oui.
C'est un pouvoir que tu crains
Non, je l'aime bien aussi. Enfin, je le crains d'une certaine façon, mais quand c'est moi qui l'exerce, ça me plaît.
Alors quand on parle de... Voilà, quand on passe comme ça tout naturellement du corps à la domination par les machines, j'ai envie du coup de te brancher un peu sur le thème de la surveillance. Finalement, on parlait de la voix, on parlait du corps. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est le regard aussi, qui est une notion... Et puis tout ça se retrouve un peu durci, ou je ne sais pas comment dire, dialectisé par la surveillance dans plusieurs pièces en fait.
Oui.
Mais surtout dans la dernière qu'on entend ces jours-ci.
Mais oui, pour moi, c'est une chose qui est toujours en conflit, disons, surtout dans le théâtre musical. C'est parce que mon œil est plus fort que mon oreille. C'est-à-dire que j'ai un œil plutôt prédateur qui voit tout de suite les choses, et mon oreille est lente. Et j'essaye toujours de trouver... Comment combiner les images, la vision et l'écoute pour que les images ne soient pas trop fortes par rapport à l'écoute. Ça a toujours été mon problème et ça l'est encore maintenant. Et donc, dans Luna Park, comme il s'agit de... Le sujet, c'est la surveillance. Pas seulement la surveillance, les machines qui sont dans les supermarchés, qui sont dans les rues, qui sont... C'est aussi la façon de pouvoir entrer dans le monde de l'autre. Virtuellement. Dans le spectacle, il n'y a aucun rapport direct entre les interprètes. Ils passent tous par des caméras et par des circuits d'écran. Et donc, comment, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir se téléphoner et se voir, par exemple, ou pouvoir espionner chez soi pendant qu'on n'y est pas, et voilà, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. Parce que ça a à voir avec l'œil aussi, beaucoup. Et l'écoute, c'est-à-dire les gens qui essayent d'écouter les machines, d'écouter les enregistrements. Les gens aussi, je pensais beaucoup aux scribes au début de l'Antiquité, qui écrivaient tous les événements, tous les finances. Et je me disais, c'est quoi les scribes aujourd'hui? Finalement, c'est... pour moi, c'est cette espèce de machine énorme qui enregistre sans arrêt tout. Encore une fois, je le vois pas du tout comme un, de toute façon, c'est comme ça, c'est un constat. C'est pas pour dire abat la surveillance ou bon, on sait bien que c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Mais je le vois plutôt avec un œil d'enfant aussi.
Tu le vois comme un grand terrain de jeu, un grand parc d'attractions.
J'essaye de le détourner dans ce sens-là, parce que sinon, c'est une catastrophe.
Bon, j'avais aussi une jolie image de paysage sous surveillance, où là, le thème de la surveillance est très différent, mais on a quand même, puisqu'il s'agit en fait de la description d'un paysage, par une sorte de figure neutre, une caméra. Oui, je crois, voilà. Mais on avait déjà cette idée d'un dispositif où les gens peuvent être face à face sans se voir directement, où il y a toujours une médiatisation du regard, en fait.
Oui, absolument. Oui. Mais là, c'était le texte de Heiner Müller, qui est un texte extrêmement dur et cynique, et très poétique en même temps. C'est ces deux pôles-là qui font que le texte est magnifique. Et j'ai essayé, avec ces deux interprètes et les musiciens qui sont autour, de créer cette tension-là, qui est intense. C'est très bizarre, c'est un texte qui est à la fois très dur, et avec une tension énorme, et à la fois, toutes les images musicales que ça m'a apportées, c'était des images de grande mollesse, comme les murs matelassés des prisons ou des hôpitaux psychiatriques, en fait. La musique était vraiment... On avait l'impression de marcher sur quelque chose de très mou. Et... la tension venait de là, je crois, entre ce qui était dit et ce qu'on attendait, qui était un grand contraste, en fait.
Dans le cas de paysage sous surveillance, on n'avait que deux acteurs principaux et puis les musiciens sur scène. Dans Luna Park ou dans d'autres pièces qu'on a pu évoquer, ils sont à la fois performeurs. Ils sont performeurs, voilà, justement, il n'y a peut-être pas d'autre mot. Oui. Ils sont toujours quelque chose au départ et puis ils deviennent, effectivement, ils sont pris dans une machine ou un dispositif. Ces choses-là, ce sont des choix très, très arrêtés au départ ou sont des choses qui peuvent évoluer quand tu conçois un spectacle? Est-ce que comment vient le dispositif, en fait, dans les...
Le dispositif, il est venu assez vite en travaillant aussi avec Daniel Lévy, qui m'a aidé pour la scénographie, les lumières et la vidéo. J'ai fait le dessin du dispositif, et puis ensuite, voir les combinaisons de quelle caméra, ou quel écran, ou comment on peut combiner les choses. Voilà, peu à peu, ça se... Et puis j'ai bien vu que très vite, qu'il fallait qu'il soit à la fois les musiciens, des témoins, des gens qui essayent de surveiller l'autre, d'entrer dans son monde, et puis subir la même chose de l'autre côté. Donc c'est toutes ces combinaisons qui m'intéressaient, parce que c'est aussi comme une partition, en fait. C'est vrai qu'ils deviennent très actifs, les musiciens, même quand ils jouent de la musique seulement, sans théâtre, en fait.
Alors on retrouve là cette question de la partition, en fait, c'est quelque chose que tu as toi-même thématisé à différents moments et que les musiciens qui ont travaillé avec toi évoquent volontiers, c'est-à-dire la façon dont un spectacle peut se construire à partir de très peu de matériaux musicaux et puis ensuite prendre donc toute sa cohérence. D'autres spectacles ou d'autres pièces sont totalement écrites du début une fois pour toutes, en quelque sorte, avec quelques adaptations. Et on a de plus en plus dans des spectacles récents, l'idée qu'il pourra y avoir une partition, c'est possible de l'écrire, mais elle vient après, elle est descriptive, elle est plus prescriptive. Comment t'es venu à par exemple, pour Machination, tu as vraiment expliqué cette idée-là, tu as dit qu'il faudra une sorte de chose synoptique qui est la partition, et qu'en même temps je ne peux pas écrire complètement à l'avance. Comment tu as théorisé cette chose-là, finalement, si tu l'as théorisé?
Je crois pas, non, c'est vraiment très, très empirique, hein. C'est-à-dire que je préfère avoir des fragments musicaux, de textes, de comportements, et puis les travailler, les mettre ensemble, tous en même temps. Du coup, si la musique avait une logique d'un bout à l'autre, j'aurais dû épouser cette logique-là. Et tandis que là, non, je suis libre de le faire. Une fois que maintenant le spectacle qu'on joue à côté, il est complètement réglé comme une partition classique, quoi. Et la partition va être éditée plus tard. C'est-à-dire que je vais écrire les superpositions, les juxtapositions, tous les chemins, toute la dramaturgie, comme une partition normale, avec l'électronique qui intervient à tel moment, etc.
Et quand on écrit une partition, c'est pour qu'elle soit jouée. Et très souvent, on a cette question un peu autour de ce qu'on appelait à une époque le théâtre musical, c'est-à-dire le fait que l'investissement de l'interprète dans le processus de création soit très important. Il trouve comment dire les textes, du coup le compositeur réagit et fait quelque chose avec. Ça donne un caractère unique, pas seulement à la performance, mais peut-être à la partition elle-même. Alors pourtant, il y a quelques expériences quand même de pièces qui justement ont été réinventées par un nouveau geste interprétatif. Ma récitation en est un bon exemple.
Oui, mais même machination, parce que c'est... Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quand je travaille avec les interprètes, je pars d'eux beaucoup. Je me laisse guider par ce qu'ils m'amènent, par ce qu'ils sont. Je les observe beaucoup. Et c'est vrai que je n'aurais pas fait les mêmes Luna Park ou les mêmes machinations avec d'autres. Mais une fois que la chose est gravée, je prends soin de ne pas dire comment il faut dire le texte. Je ne mets aucune indication. Vraiment, c'est comme la musique baroque. Ça veut dire que les autres qui les reprennent peuvent aussi entrer dedans avec leur univers et s'approprier le texte et la musique. Et j'ai vu Machination à Rotterdam remontée par des chanteuses, là, ce coup-ci. Et c'était formidable. Ce qu'ils ont fait, c'était complètement différent et très surprenant pour moi par rapport à ce que je connaissais de la pièce. Et ça donne d'autres idées. Ça donne d'autres idées pour écrire d'autres choses après. Parce que c'est étonnant de voir comment le piège change comme ça.
Mais là, la mise en scène aussi a bougé.
Oui. Là, c'était pas du tout. Il n'y avait pas d'écran. Les quatre filles étaient aux quatre coins de la salle. Le public était au milieu. C'était très, très... Enfin, j'étais très dépaysé.
On parlait de Stockhausen avant que la rencontre commence, tous les deux. Stockhausen avec sa folie organisatrice, où tout est dépendant d'une cosmogonie absolument déterminée par le compositeur. Là, tu nous décris une espèce d'anti Stockhausen. Là, tu es vraiment allé découvrir le spectacle tel que les gens l'avaient fait.
Oui, enfin, c'est pas. Oui, pour moi. C'est ma façon d'être. Hein. C'est pas contre le grand Stockhausen. Je suis comme ça. Je préfère être étonné. Parfois, c'est très mauvais. Hein. Parfois, il y a des gens qui s'emparent des choses et qui font n'importe quoi. Mais ça, vous l'avez aussi dans les sonates de Beethoven. Hein. C'est pas nouveau. Mais il faut prendre les risques de ça. Et ça m'est arrivé souvent d'être vraiment dessus, quoi. Et puis, d'avoir honte que ça se joue, même. Mais, et des fois, c'est des merveilles. On s'est dit, tiens, je n'ai pas pensé qu'on pouvait le faire comme ça. Ça m'apprend beaucoup de choses. Donc, j'aime pas trop dire comment il faut faire. Je préfère que les gens amènent leur monde, quoi, leur univers.
Et est-ce que tu peux avoir des expériences comparables de redécouverte avec des pièces vraiment instrumentales, c'est-à-dire vraiment écrites?
Beaucoup
du
moins.
Type pour ensemble, enfin des
non, beaucoup moins, là, c'est être bien joué ou moyennement joué, mais il n'y a pas de trahison ou de grandes surprises, quoi.
Pour le moment.
Pour le moment.
Nicolas Hodge, par exemple, a enregistré un disque de tes œuvres pour piano, oui. Où il a été amené à mettre en regard, du coup, des œuvres très... Enfin, très inégalement joué ou connu et d'époques très différentes. Oui. Donc là, le geste de l'interprète, c'est cette mise en relation. Ça t'a surpris ou ça t'a, même le simple fait qu'il veuille le faire?
Bah, ce qui m'a surpris, c'est que bon, qui joue les pièces récentes, d'accord. Mais il a été trouvé une pièce que j'ai écrite quand j'avais 22 ans et que j'avais oubliée d'ailleurs et il a mis à côté et je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait. Mais je ne l'aurais pas fait moi. Mais ça marche, effectivement, ça marche avec les autres pièces. Mais c'est, en même temps, c'est comme un ovni dans le CD. Quoi.
Alors, on est revenu à la petite image de début, et on s'était dit qu'on en parlerait un tout petit peu, qu'on la commenterait un tout petit peu.
Si tu veux.
Donc, bon, elle est extraite du cahier, du réservoir de partitions pour Luna Park. Donc, tu l'as écrite l'automne dernier.
Oui, elle est jouée. Oui, elle est jouée solo, d'ailleurs, elle est seule. Quand les flûtistes jouent, c'est une flûte basse. Alors, il y a les notes qui sont normales, en fait, qui donc sonnent normalement. Il y en a très peu, d'ailleurs, parce que vous voyez, la première note, par exemple, en dessous, il y a une croix. Ça veut dire que pendant qu'il joue, il chante en même temps. Quand les notes sont vides, le petit rond, c'est du souffle seulement. On attend les notes, mais que souffler. Et quand c'est... Il y a encore autre chose, mais il faut que je le trouve, je ne le vois pas là. Non, c'est tout, je crois que c'est ça. Alors, ce qui est très important aussi, c'est les accents que vous voyez au-dessus, parce que c'est ces accents qui donnent le rythme. Ça va assez vite, et ça fait un personnage un peu composite entre les notes chantées, les notes jouées, et les notes soufflées. Voilà. Si vous voyez le spectacle, c'est un morceau assez clair qu'on voit vers la fin.
On voit qu'il y a une grille aussi. Il y a un alignement en colonne, comme dans les textes qu'on regardait au début.
Oui, mais ça, c'est pour la clarté. Pour moi, j'essaie d'écrire très, très, très clair. Mais vous pouvez aussi voir que c'est comme dans les textes, qu'il y a des dessins qui reviennent, en fait, entre les notes. Même si on ne sait pas lire la musique, on voit bien qu'il y a des choses qui reviennent dans d'autres positions.
Dans le cahier dans le réservoir de textes de Luna Park, tu avais composé donc des pièces comme ça, disons solistes, pour le percussionniste, pour tel ou tel flûtiste. Aussi des duos, percussion, flûte, flûte.
Oui.
Quand tu parlais tout à l'heure des agencements que vous êtes amené à faire en répétition, ça vous arrive aussi de superposer différents solos.
Absolument, avec l'électronique, ou alors des pièces différentes ensemble, oui, avec des textes, musique, etc. Parce qu'il y a des textes compréhensibles en français et en anglais, parce que l'anglais, c'est la langue du contrôle, de la surveillance, mais il y a aussi...
Entre autres,
oui, mais quand même, des ordinateurs aussi. En même temps, il y a des textes qui sont juste des phonèmes, donc ça entre bien dans l'esprit de l'écriture instrumentale.
Puis il y a un mot qu'on n'a pas commenté sur l'image, c'est celui qui est tout en haut.
Veloce possible. Oui, c'est le plus véloce possible, mais en fait, c'est une fausse indication parce que le flûtiste, il est extrêmement fort et il a fait comme je le demande, très très vite. Et en fait, la pièce ne fonctionne pas quand ça va trop vite. Il faut qu'elle soit assise, il faut qu'on attende le rythme et qu'il ait le temps de faire les accents et toutes les différences de couleurs. Donc là, elle fonctionne mieux. Donc je vais l'enlever là. Comme quoi, il ne faut pas que je mette des indications.
Pas trop noter. Alors, cette idée de vitesse, en fait, c'est quelque chose que je vois... c'est une chose que je trouve très présente, en fait, dans toute ta musique. Mmh. On a souvent des figures, des personnages qui sont très absorbés par ce qu'ils font et qui vont plus vite que la normale. Ils sont toujours dans une sorte d'urgence, comme ça, une espèce de temporalité de l'urgence. Mmh.
Ah oui, ça c'est sûr que je suis absolument incapable d'écrire un mouvement lent. Ça ne m'est jamais arrivé. Enfin, de temps en temps, à la fin du spectacle, peut-être un peu. Ouais. Mais non, parce que je vis comme ça. Je suis speedé, comme on dit. c'est une urgence, c'est une course à chaque fois. Je ne sais pas à quoi, mais c'est. Ouais, il faut.
T'as une pièce qui s'appelle À tombeau ouvert.
Toujours, oui. Mais justement.
Qui t'a composé avant Dans le mur, ça m'avait toujours un peu choqué.
Pour piano aussi. Oui.
Bon, je pense que après un terme pareil, on va pas pouvoir continuer. Donc, je sais pas si on a le temps pour quelques questions, Francine. Oui.
Des questions.
Je peux peut-être parler comme ça.
Non, non.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Et ça m'a posé une petite question par rapport à la récitation qu'on a écouté, le fragment. Je pense que cette version que je ne connaissais pas rajoute des sons qui n'étaient pas dans la partition originale. Enfin, je ne sais pas si parfois. Et moi, je me demande si pour vous, Georges, ça a rajouté quelque chose à la première version par rapport à la communicabilité de l'œuvre, même à la compréhension du contenu essentiel et profond.
Oui, c'est une autre façon justement de faire que Martine Guerre le faisait au début, qui était beaucoup plus théâtrale.
Oui.
Mais je trouve que musicalement, elle est beaucoup plus juste.
Oui.
Donc évidemment, chaque fois on perd quelque chose et on gagne quelque chose.
Oui.
Donc là, musicalement, on gagne beaucoup parce que l'autre était joué sur scène, donc c'était moins contrôlé et beaucoup plus théâtral. Et on perd en théâtralité. Bon, c'est...
Oui. Moi, c'était pas la théâtralité qui m'a un petit peu gênée, c'est le fait que, en ce qui me concerne, la phonétique, elle a un sens musical très fort, et donc pour moi, c'était de la musique déjà. C'est peut-être vrai que maintenant ce sera une autre chose, une partition plus musicale. Mais ce que j'apprécie beaucoup dans la phonétique telle que vous la traitez, et pas seulement vous, je pense aussi à Schwitters et à d'autres personnes qui, n'étant pas des compositeurs, ont joué avec la phonétique comme une cellule minimale, une matière première qui a déjà dans son essence une musicalité intrinsèque. Et donc, bon, c'est un petit détail, mais c'est vrai que peut-être j'apprécie les deux différemment.
Moi, j'aime bien les deux.
Oui, voilà, c'est ça. C'est deux choses, oui, tout à fait. Merci beaucoup.
On a le temps encore pour une ou deux questions.
Je crois qu'il n'y a pas de questions.
Il y a monsieur.
J'aimerais savoir quel est le rapport que votre musique peut avoir avec les enfants, justement, la perception que les enfants peuvent en avoir. Est-ce que vous pensez à cela, s'il vous plaît?
Moi, j'ai eu quelques expériences. On a fait des répétitions ouvertes à des écoles et à des enfants. Et j'ai fait même des stages sur la récitation, justement, avec les enfants. Et ça les enfants se mettent à imiter ce qu'ils entendent et se mettent à fabriquer même des récitations, un monde sonore, un monde de texte, un monde de mots qui est parallèle, en fait, qui est un jeu. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Et je vois, par exemple, mes petits-enfants, quand ils écoutent les citations, ils se mettent à chanter et à raconter. Ça me fait plaisir.
Oui, bonjour, une question. J'ai eu l'impression que depuis quelques années, il y a une exploration de votre part dans vos œuvres, une exploration de votre part sur la texture sonore en elle-même. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du théâtre musical, de cette recherche sur les phonèmes, mais on a l'impression que vous développez en ce moment une phase où vous concentrez aussi beaucoup sur, non plus sur le corps musical, mais le corps sonore, enfin vraiment cette idée de résultat qui arrive.
C'est vrai que ça fait une dizaine d'années, par exemple, où la couleur des sons, par exemple dans des ensembles, dans des pièces pour ensemble, vient du mélange d'harmonie qui pour moi sont nouvelles. En fait, c'est des choses que j'ai trouvées assez tardivement, qui sont basées sur des accords reconnaissables et en même temps sur toute une structure d'accord avec des quarts de ton, qui fait que tout d'un coup on a des couleurs complètement autres dans les ensembles, et aussi évidemment la rythmique à l'intérieur de ça qui crée aussi une espèce de tremblement comme le néon, quoi, ou comme des lumières comme ça. Donc ça, je travaille beaucoup là-dessus, par exemple pour les ensembles, ça me permet de trouver une énergie qui vient pas seulement de la rapidité dont on parlait tout à l'heure, mais qui vient aussi de l'intérieur de la couleur.
On a l'impression d'un scintillement un petit peu, non?
C'est ça, quelque chose qui tremble, quoi. Oui, ça m'intéresse bien.
Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, donc il nous reste à remercier Georges Apergis.
Merci à toi.
La BPI qui nous a invités.
Merci.